Alléluia. Dieu est bon. Amen. Comment allez-vous, l'église ? Ça va ? Ça va ? Vous allez bien ce matin ? Toujours dans la joie de se retrouver dans la maison de Dieu, là où Dieu fait demeurer son esprit quand deux ou trois sont réunis. Ce sont des vérités spirituelles que nous voulons vivre. Hein ? Amen. Nous ne voulons pas regarder de belles histoires dans la parole de Dieu et dire « Ah, c'était bien hein, quand même ce qu'on a lu. Ah, c'était bien ce qu'il vivait avant. » Parce que Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a accompli les miracles avant le fait toujours aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous croyez au Dieu des miracles ? Alléluia. Ça tombe bien, sans transition. Ça tombe bien parce que j'ai eu à cœur, et en priant pour l'Église, je demandais, Seigneur, et c'est un peu le souci de tous les prédicateurs, alors les prédicateurs de la salle vont acquiescer doublement, Seigneur, qu'est-ce que je dois donner à l'Église ? Quelle est la parole que l'Église a besoin ? C'est une nourriture et on n'est pas là pour... Je ne suis pas le chef de mon propre restaurant. Je suis le commis du grand chef dans le ciel. Alléluia. Et je veux appliquer ses recettes. Et en lui parlant, le Seigneur m'a dit très clairement, parle-leur de mes miracles. Alors on va commencer une série sur les miracles de Dieu que j'ai appelé les miracles au quotidien. Parce que moi, je vais vous dire franchement, j'en ai marre de conjuguer le mot miracle au passé. Il est au présent. L'Éternel est « je suis ». Il n'est pas « j'étais ». Et pas « je serai », bon, peut-être après moi. Non, il est « je suis ». Il est d'aujourd'hui. Et ce qu'il a dit n'a pas changé. Ses promesses sont intemporelles, inconditionnelles, parce que le miracle, il vient de Dieu. On ne peut pas le fabriquer. On peut en faire des pâles copies. Mais le véritable miracle de Dieu, il n'y a que Dieu qui le détient dans sa main. Et... Dans ce désir d'aller plus loin dans la vie du miracle, les miracles au quotidien, donc c'est une série de messages, alors je ferai, c'est sûr, au moins les deux dimanches qui arrivent, et puis on verra par la suite, parce que j'ai envie de détailler, j'ai relaté à peu près dans la Bible 157 miracles, okay, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais ça c'est juste ce que la Bible nous relate, et la Bible dit une chose, c'est que ben, en fait, il n'y aurait pas cette place dans les bibliothèques, pour relater tous les miracles de Jésus, rien que pour lui. Mais dans l'Ancien Testament, on voit plein de miracles. Et au final, comme l'a dit un de mes amis pasteurs, la Bible, c'est le livre des miracles, en fait. Je vous défie de trouver quelque chose de normal dans la Bible. Si, à part le péché, qui trouve une sorte de voie naturelle vers l'atrocité, ça oui. Mais dès que Dieu agit, c'est miraculeux. Dès que Dieu parle, c'est miraculeux. Dès qu'il se présente à l'homme, c'est le miraculeux. Et nous avons besoin de remettre le miraculeux dans notre quotidien, mes frères et sœurs. Alléluia. Peut-être c'est une aspiration profonde de vos cœurs et peut-être certains se disqualifient. J'ai envie de dire, c'est pas grave, le miracle, il appartient à Dieu. Amen. Alors, dans ces quelques dimanches que nous allons voir ensemble les raisons, les causes, les conséquences de la manifestation surnaturelle de Dieu dans notre quotidien. Parce que je vais vous donner un secret. Ce que nous appelons miracle, c'est le quotidien de Dieu. C'est sa nature. C'est l'éternité dans sa présence. C'est miraculeux. Et nous, parce que ça intervient dans les ordres naturels des choses, on est tout bousculé. Ah, certains réagissaient mal hein, au miracle. Hein. Ils en avaient peur, ils fuyaient loin de Jésus. Et David nous attestait quelque chose après une délivrance du Gadarénien. Le peuple a dit non, nous ne voulons pas de toi. Le miracle va déranger, le miracle va chambouler nos habitudes. Le miraculeux, vivre le quotidien de Dieu, c'est être bousculé. Parce que c'est la définition même du miracle. Dans la Bible, en grec et en hébreu, voici ce que dit le mot, ce qu'est la définition du mot miracle. C'est semeion en grec qui veut dire un signe, une marque, un témoignage. Et en hébreu, ça dit la même chose, plus le souvenir est comme un étendard, une bannière. On pourrait donner donc la définition suivante. Le miracle, c'est un fait extraordinaire et suscitant l'admiration en dehors du cours habituel des choses. Manifestation de la puissance et de l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire amen à chaque fois, et même si ce n'est pas la Bible, et de la liberté dont il use pour accomplir sa volonté. Le miracle n'a pas son but en soi. Il dirige nos regards plus loin en révélant la présence immédiate de Dieu. Voilà ce qu'est le miracle. Une définition trouvée dans un dictionnaire. Mais dans ces 157, à peu près Au moins, au bas mot, 157 miracles relatés. Rien que pendant le ministère de Jésus, des centaines de milliers de miracles ont eu lieu. Et Jean 20 nous dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Ça, c'est Jean 21. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Qu'est-ce que vous mettez dans la définition du mot miracle, vous ? Allez, donnez-moi des exemples de miracles. La guérison est un miracle. La délivrance est un miracle. Le pardon du péché, le salut est un miracle. Et c'est même le miracle numéro un. La venue du Saint-Esprit dans nos vies, c'est miraculeux. La vie tout court est un miracle. Alléluia. Imaginez les bon, peut-être vous plus que moi, mais les corps tellement bien faits de la part de Dieu. L'homme n'arrive pas à reproduire. Ils font des robots humanoïdes, mais voilà. Nous sommes des miracles ambulants. Nous sommes là dans la pensée de Dieu. Nous sommes, et je vais le dire, Christ a été le Verbe incarné, mais nous avons été le souffle de l'Esprit. Et à la création, Dieu a parlé pour que nous puissions avoir la vie. Nous sommes des miracles sur pattes. Alléluia ! Je dis doublement parce que nous sommes le produit de la création de Dieu, du désir et de l'amour de Dieu, et nous sommes par deux fois parce qu'il nous a pardonné, et je dirais même par trois fois des miracles parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Oh, n'est-ce pas miraculeux ? Seigneur, ça va pas. Tu dois pas bien sonder mon cœur pour vouloir demeurer dans le temple que je suis. Il n'y a que moi qui le dis, vous êtes parfait. Mais vous savez qu'il existe de mauvaises raisons pour vivre le miracle. Nous pouvons avoir de mauvaises motivations pour vivre le miracle de Dieu. Il existe des mauvaises raisons. Ces raisons, je les relate rapidement. Quand nous demandons le miracle de manière égoïste. Seigneur, fais ceci, fais ça. Comme si on faisait au 1er décembre notre liste que nous allions envoyer en Lituanie. On le fait, voilà, notre liste, et on envoie parce qu'on a besoin de ces cadeaux-là. Jésus n'a jamais accompli de miracle de manière égoïste. Même quand il y a la tentation, le diable place Jésus au sommet du temple, il dit « mais saute !» et puis commande aux anges pour qu'ils te réceptionnent ou qu'ils te permettent de t'envoler. Ça, c'est le rêve de ma dernière. Elle rêve de faire du parapente, elle a 4 ans. Quand on a faim, on pourrait demander « Seigneur, je voudrais un burger juteux. » N'est-ce pas ce que le diable a voulu faire à Jésus ? Mais change chez Pierre, t'as faim, c'est 40 jours. Ton corps, il doit vraiment avoir envie de manger. Je ne sais pas à quoi devait rêver Jésus là en nourriture. Mais au bout de 40 jours, ça doit être violent. Même si le Saint-Esprit nous remplit, alléluia, vous êtes des êtres spirituels. Moi, je suis charnel. Quand j'ai faim, je pense à rien d'autre que manger. Et poussez-vous de là, j'ai faim. Imaginez la tentation de faire... Il avait la puissance et l'autorité de changer les pierres en pain. Mais il ne l'a pas fait parce que le miracle motivé par l'égoïsme n'est qu'une copie d'un miracle. Et le diable sait le faire. Mais notre Dieu, non. Il fait quelque chose qui sert sa volonté. Alléluia ! À chaque fois que Jésus accomplira un miracle, il le fera au nom de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit. Parce qu'il est revêtu de cette autorité qu'il est appelé le Fils de Dieu. Il a cette autorité, ce mandat de Dieu. Et il l'accomplit non pas par son propre chef, il le fait au nom de Dieu, au nom du Père. Et il invoque le Père, à chaque fois il prie et on voit un Jésus, oh là là, notre maître à tous dans le domaine de la prière. Lui qui pouvait s'en passer, nous enseigne tous sur la prière. Mais il est allé chercher la face de Dieu. Et face au tombeau de Lazare, il va faire cette prière. Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus fait une prière publique pour que le miracle ait lieu. Juste, il avait à regarder le tombeau, penser, Lazare sort, Lazare sortait. Juste, il regardait le tombeau, le Lazare était ressuscité. Vous croyez que Jésus est limité par ses cordes vocales ? Non, il est Dieu sur la terre. Le Saint-Esprit était en lui. Et il agissait puissamment. Jésus peut refuser de faire des miracles. Je passe les côtés négatifs, après on va aller dans les raisons des miracles, vous allez voir.
Jésus va refuser de faire des miracles. Si nous lisons dans Matthieu 12, verset 38, nous lisons ceci. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire des signes miraculeux. » Et là, nous lisons à partir du verset 39. Il leur répondit « Ces gens de notre temps, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, » donc ils s'adressent à des religieux, hein, connaissant le Dieu des miracles de l'ancien temps, ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe ? Il ne leur sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Dieu veut nous résister dans le miraculeux si nous ne sommes pas passés par la croix. Dieu veut honorer la foi de celui qui est sauvé et racheté. Il veut que le miraculeux accompagne les croyants. Voilà pourquoi le seul miracle qui nous est donné en premier lieu de vivre, c'est celui de la conversion. Mon ami, es-tu passé par la mort et la résurrection ? Es-tu demandé pardon pour tes péchés ce matin ? Viens-tu dans cette maison justifiée, te disant « Mon nom est inscrit dans le livre de vie ». As-tu vécu cela ? Sinon, tout ce que je vais dire par la suite, les dizaines et dizaines de miracles que je vais relater, qui va susciter la foi en toi, doit t'amener à une chose, à venir au pied de la croix et à demander pardon pour tes péchés. Parce que Jésus, le plus grand des miracles qu'il ait accompli, c'est lui qui était innocent, il est venu mourir pour nous. Lui qui était juste est venu prendre la forme des indignes, on l'a mis à nu, on l'a cloué en croix, et le troisième jour, il est ressuscité. C'est le miracle qui doit être notre aspiration suprême. Seigneur, je veux vivre cette révélation-là. Cette révélation de ce Jésus ressuscité. Parce que je ne suis pas venu servir une morale chrétienne, ni une religion évangélique. Je suis venu rencontrer le Dieu vivant et vrai. Celui qui tient la mort entre les mains et qui la domine. La mort ne pouvait le retenir. Christ est ressuscité, mes amis. Alléluia. Amen. Alors ce matin, qu'importe les motivations de ton cœur, si la première n'est de vivre le miracle du Jonas sortant du poisson ou du Christ ressuscité au troisième jour, toute la suite ne sera que frustration pour ta vie spirituelle. Mais je me suis posé une question, mes frères et sœurs. Pourquoi Dieu fait des miracles ? Certainement, on a plein de débuts de réponses, mais je me suis dit, Seigneur, alors en parcourant la parole, alors rassurez-vous, je n'ai pas tout relu la Bible pour préparer ce message, mais on a des outils informatiques maintenant, c'est pratique. Je me suis dit, pourquoi ? Seigneur, mais qu'est-ce que tu as besoin de nous prouver ? Tu as déjà tout donné à la croix. Pourquoi tu ferais des miracles encore aujourd'hui ? Et certains pensent cela parce que Jésus est venu, parce que les apôtres ont rédigé la Bible. C'est bon, les miracles se sont arrêtés. Mais ça voudrait dire que Dieu est changeant. Dieu change ? Est-ce que Dieu a des sauts d'humeur ? Non. Dieu fait sa volonté depuis toute éternité et ce qu'il a accompli comme miraculeux à la création, il veut encore aujourd'hui par le salut, par grâce, recréer en nous. Les choses qui ont été brisées sont appelées à être restaurées, la maladie est appelée à être chassée, les morts sont appelés à ressusciter. Alléluia ! Ça, c'est le quotidien de Dieu parce que c'est sa nature, il est la vie. Alléluia. Et nous ne prions pas le Dieu des morts. Nous prions le Dieu de la vie. Amen. Alors, la première des raisons, et je vais les lister les 5, et après on va revenir. Normalement, c'est dans la suite, Chantal. Je vais pas te perdre. La première des choses, pourquoi le miracle ? Parce que Dieu veut révéler la puissance et la présence de Dieu. Le miracle est là pour révéler la puissance et la présence de Dieu. Deuxième chose, le miracle est là pour confirmer un message ou un messager. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons nous arrêter au deuxième point. Et dimanche prochain, nous verrons les 3 autres raisons. Le miracle est là pour révéler l'amour et la compassion de Dieu. Quatrièmement, le miracle est là, parfois aussi, et nous le relatons dans la parole, en qualité de jugement et de correction. Ah, il y a eu un amen quand même, ça va. Et la dernière chose, le cinquièmement, c'est que le miracle est là pour renforcer la foi et enseigner. Amen. Ça vous va comme programme ? Vous auriez dit non, c'était pareil. Alors revenons à notre première raison. Le miracle est là pour révéler la puissance et la présence de Dieu. On le voit dans la vie de Moïse. Première rencontre avec Dieu, le buisson ardent. Une zone sainte que Dieu a délimitée. Il met un feu dans du bois. Qu'est-ce qui se passe quand du feu et du bois se rencontrent ? Il brûle, il se consume et le bois devient des cendres. Ok. La sainteté de l'Éternel devrait agir de la même manière avec notre péché. Nous devrions être consumés dans sa présence. Mais Dieu a choisi de nous offrir la grâce de sa présence. Et dans la vie de Moïse, le miraculeux s'est manifesté par ce buisson ardent où la sainteté de l'Éternel s'est révélée à un pécheur meurtrier, voulant aider Dieu, revendiquant une place qui n'était pas encore la sienne. Il n'était pas prêt, Moïse. Et c'est ce qui se passe quand on veut faire, en aidant Dieu, on fait des bêtises. Mais Dieu a pris patience avec son Moïse et il est venu se révéler. Dieu a fait un miracle en brûlant un arbre qui ne s'est pas consumé. Et c'est là, en soi, tout un symbolique extraordinaire que Dieu veut nous communiquer sa sainteté, son amour, sa présence. Il veut nous révéler sa nature sans que nous ayons de dommages collatéraux. Plutôt intéressant. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu n'es pas trop indigne, pas trop pécheur pour venir à Jésus. Parce que le miracle, c'est lui qui l'a provoqué. Aucune œuvre sur la terre ne te permettra de gagner Christ, mais le plus grand des miracles, la plus grande des œuvres, c'est l'œuvre de la croix, où Dieu est venu sur terre. Et aujourd'hui, tu dois vivre ce miracle de Moïse. Deuxième miracle dans la vie de Moïse, la mer rouge qui se sépare en deux. Vous n'avez jamais été dans une impasse, vous. Vous n'avez jamais perdu l'espoir en disant « mais l'itinéraire est bloqué par les voies naturelles de la vie ». Vous, ça ne vous est jamais arrivé. Mais moi, j'ai prié souvent le Dieu qui ouvre des voies inaccessibles, qui est capable de déplacer les montagnes, fendre la mer en deux pour tracer une voie et tracer sa volonté. Et c'est là le miraculeux dans la vie de Moïse. Dieu est venu pour tracer une voie, et nous l'avons chanté tout à l'heure, et le 10, je crois que tu l'as cité, ce texte d'Ésaïe, que Dieu trace un chemin dans le désert, une voie dans la solitude. Dieu est capable de séparer la mer en deux. Un troisième miracle dans la vie de Moïse, celui de la révélation de sa parole. Dans des tonnerres, du feu, une colonne de nuages vient entourer le mont Sinaï. On entend au sein des trompettes. Les 70 qui étaient là avec Moïse vont voir une préfiguration du ciel avec comme une mer cristalline. C'est normal de voir ces choses-là. Vous êtes en plein désert et puis d'un coup, le feu vient du ciel, la terre commence à trembler, vous entendez des trompettes qu'il a. La voix de Dieu se fait retentir à l'oreille des hommes. N'est-ce pas miraculeux ? Alléluia ! Dieu veut se présenter ainsi. C'est ce qu'il a fait à la Pentecôte. Je ne vais pas trop développer parce que c'est l'une des prédications et des enseignements que nous allons voir lors du week-end d'église. Dieu, par la Pentecôte, est venu exactement faire ce qu'il a fait au Sinaï, se présenter par le Saint-Esprit, se révéler aux hommes, révéler sa parole aux hommes. Je passe pour réciter tous les personnages de la Bible, mais si juste on regarde et on s'arrête sur le quotidien d'Israël, on laisse Moïse, on est après la sortie d'Égypte, ils avaient un GPS spirituel. Parce que Dieu ne se contente pas juste d'ouvrir un chemin, il nous guide dans le chemin. Et quand bien même nous serions durs, semblables à Israël, à la nuque raide et au cœur dur, avec 40 ans d'errance, ça fait... Ouais, ok, ils ont été durs à la comprenette, ok. Mais Dieu malgré leur rébellion, Dieu les conduisait par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Il donnait le bon timing de la marche, le bon itinéraire, le bon lieu où camper. Dieu était à la manœuvre et aujourd'hui Dieu veut nous guider ainsi. Alléluia! Quand je regarde que chaque matin, les Israélites se levaient, ils ouvraient leurs tentes et ils n'avaient qu'à se baisser pour ramasser leur nourriture. Dieu est le Yahvé Jireh, celui qui pourvoit. Dieu veut nous rappeler qu'il est maître de ce qui peut remplir notre ventre, notre compte en banque, notre cœur. Alléluia! Il est le maître, il est celui qui provoque des circonstances tellement miraculeuses. Et je ne sais pas vous, hein, mais vous n'êtes pas comme Israël. Moi, peut-être que je suis un petit peu trop comme eux. Ah, oh, toujours de la manne. C'est miraculeux, mais on s'habitue au miraculeux. On dévalue le miraculeux à force de répétition. Ah, oh, des conversions encore, ah bah c'est super. Ouais. T'as pas mieux, Seigneur, enregistre, hein. C'est grave. C'est ce qu'a fait Israël. Et Dieu a voulu donner une bonne leçon en envoyant l'écaille.
Ils sont tous venus végétariens après. Imaginez le quotidien d'Israël. Un chemin est tracé, un GPS visible se déplace. Chaque matin, ils mangent. Un autre, je ne l'ai pas noté, mais il me revient en prêchant. Là. Et ils n'allaient pas à Bata acheter des chaussures chaque saison. La semelle de leurs chaussures ne s'est pas abîmée pendant 40 ans. Je veux la marque. C'est des Air Force One venus du ciel, je ne sais pas. Seigneur, je veux les mêmes. Imaginez les économies en chaussures. Dieu est grand dans le moindre fait et geste. Alors qu'ils sont en plein désert, imaginez, on n'avait pas un cordonnier à chaque baobab. Ils avaient besoin de cela. Et Dieu a assuré la marche de leurs pieds. Dieu est miraculeux. Alléluia. Quand je regarde le ministère de Jésus, il révèle Dieu par des choses... Je ne sais pas, moi, vous allez faire un casting pour monter une équipe de prédicateurs ambulants. C'est ce qu'il fait, il prend ses apôtres. Et au lieu de les... Moi, je ne sais pas, je dis, bon, Pierre, viens, j'ai hâte de parler, je suis le Messie, fils de Dieu. Bon, tu ne le savais pas, je te le dis maintenant. Viens, j'ai pris les rouleaux, là, on va aller étudier la Torah. Moi, je pense que j'aurais fait comme ça. Jésus vient dans leur quotidien, il arrive, il dit, jette les filets. Oui, en fait, je suis pêcheur, c'est mon métier. Toi, t'es charpentier, on se connaît même pas. C'est vrai, la scène, elle est ahurissante. Jette le filet. Mais j'ai travaillé toute la nuit. J'ai fini de ranger mes filets. Il me faut 6 heures pour ranger autant de pêche. C'est hallucinant. Il n'y a rien qui va dans cette discussion. Et on a de quoi... je sais pas, moi, un parfait inconnu me dit ça. Je dis, bon, écoute, je vais te bénir dans le nom de Jésus, mais pars maintenant. On va arrêter la discussion là. Mais il va dire, sur ta parole, je jetterai les filets. Dieu s'est présenté à nous par Jésus-Christ. Et alors qu'il était pêcheur, et dans un juif, dans la tête d'un juif, tu n'abandonnes pas ton métier, parce que sinon ta femme, tes enfants, ta mère certainement, parce que ton père est mort tôt, tu as toute la famille auquel tu dois subvenir à leurs besoins. Dans le cœur du juif, il y a cette responsabilité de la famille. Et Jésus dit, écoute, tu vas me suivre. Et il le dit après, il dit, voilà. Ces poissons, il y en avait tellement, tellement. Je pense qu'il y avait plusieurs vies de vente de poissons. Et le cœur de Pierre a été apaisé. Certainement, pour réagir instantanément, dans, oh, bah, c'est bon là, hop, je te suis Seigneur. J'ai compris que tu allais prendre soin de ma famille. Suivre Jésus, ça a un coût, c'est vrai. Il faut arrêter de faire certaines choses. Aimer Dieu plus que nos activités, plus que notre carrière, c'est vrai. Mais Dieu a toujours promis qu'il pourvoirait à nos besoins et à ceux de nôtres. Et quand on voit cette rencontre, Pierre va déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Il va déclarer, il va reconnaître la révélation de Dieu. Parce que Dieu, s'il se présente à nous, il veut manifester sa puissance, c'est surtout pour révéler sa présence. C'est pas juste pour un... regardez, je fais des miracles. Non, Jésus n'a jamais fait des miracles pour faire des miracles. À chaque fois, il servait ce plan de révéler la présence de Dieu aux hommes. Amen. Moi, je vois un Dieu qui vient dans les tempêtes de ma vie, puisque lorsqu'il va marcher sur les eaux, ce n'est pas dans une mer calme. Ce n'est pas au sein d'une croisière tranquille où les pêcheurs avaient bien pêché, les bateaux étaient pleins de poissons. Non, non, c'est au sein même de la panique des pêcheurs, où ils se disent « on va mourir », là où ils ont mis plusieurs heures, j'avais calculé, c'était au moins 6 heures à ramer, arriver qu'au milieu du lac de Génézareth, de piètres pagayeurs. Mais la tempête était telle, les tourbillons étaient tels, qu'ils avaient été stériles dans leur traversée. Mais Jésus marche, et à la vue de leur panique, il vient, ordonne à la tempête de se taire, et finisse le trajet indemne. Dieu veut être capable de faire taire les tempêtes de ta vie. Non pas pour que tu sois soulagé, mais pour que tu comprennes qui est dans ta barque et qui doit demeurer dans le bateau de ta vie, si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, je vous donnais les noms hébreux et grecs du mot miracle. Mais quand on regarde Matthieu, Marc et Luc, le mot miracle, semion en grec, n'apparaît presque pas. Le mot qui révèle... les miracles de Dieu par Jésus-Christ sur la terre, c'est le mot dunamis.
À chaque fois, il est question de, voilà, de, et la définition du dictionnaire dit ceci, c'est l'action miraculeuse, l'action miraculeuse du Christ n'est pas présentée comme un prodige, mais comme l'effet naturel d'une puissance surnaturelle. Jésus ne faisait pas des miracles, il exerçait son pouvoir. Alléluia. Et ça fait toute la différence. Quand on regarde dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, le mot qui accompagnait les miracles, les prodiges, c'est le mot dunamis, qui parle de la puissance. Et quand je regarde Luc, un seul exemple, Luc 19, verset 36. « Toute la foule des disciples remplis de joie se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les dunamis, tous les miracles qu'ils avaient vus. » Nous, nous lisons miracle à la va-vite en disant c'est toujours le même mot. Non, dans la Bible, il y a des nuances. Le ministère de Jésus, ce n'est pas de faire des miracles. C'est de manifester son pouvoir, son autorité au milieu des hommes. Faire une interruption dans le cours naturel des choses pour manifester le surnaturel de Dieu. Ce que nous appelons son quotidien, dans notre quotidien. Alléluia ! Il est capable, Dieu est grand, il est tout puissant. Et le mot dunamis, nous le retrouvons dans Actes 1:8, associant la puissance du Saint-Esprit et le fait d'être des témoins. Et pas des témoins, un témoin, ses témoins. Il y a un possessif de la part de Jésus. Il veut que nous puissions lui appartenir par la puissance du Saint-Esprit pour refléter vraiment qui il est. Et non pas être des faiseurs de miracles, non pas des gens qui soient des guérisseurs, qui parlent en langue tout le temps et de manière complètement uluberlu, qui sont des pierres d'achoppement. Mais non, mais par la puissance du Saint-Esprit, refléter Jésus-Christ, avoir l'autorité, manifester le pouvoir de Jésus-Christ sur la terre. Et ça, ça nous appartient, frères et sœurs. Non pas qu'on ait mérité quoi que ce soit, mais parce que nous avons tout eu par grâce. Alléluia. La deuxième raison du miracle, c'est de confirmer un message ou un messager. Et là, vous allez voir la cause à effet. Hein. Nous sommes ses témoins. Et si Dieu manifeste sa puissance, c'est pour authentifier que nous portons le message de la vérité. Non pas une vérité, mais la vérité. Que Christ est le chemin qui mène à la vie. Amen. À chaque fois que nous voyons des miracles, surtout dans l'Ancien Testament, ces miracles servent à authentifier les prophètes et les apôtres comme étant de véritables porte-paroles de Dieu. Des messages authentifiés par la puissance de Dieu, un gage de vérité, pas une contrefaçon. Nous parlons de gens qui sont vraiment libres, pas de gens qui manifestent de la magie puis qui sont en fait liés par les puissances démoniaques. Non, nous parlons ici d'un message qui libère, qui est une puissance manifestée. Quand je regarde par exemple Moïse, il était tout tremblant quand il arrivait vers Pharaon. Mais son bâton à la main, Dieu lui avait dit, mais jette-le et il se transformera en serpent. Les sorciers de Pharaon ont réussi à faire la même chose. Oui, la puissance du diable est manifeste. Mais il y a des petits détails dans la parole. C'est que le serpent d'Aaron, parce qu'il était le porte-parole de Moïse, le serpent d'Aaron, il va manger les autres bâtons. Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas une puissance qui se confronte à celle du diable comme de manière égale dans un match de boxe. Non, non, non. En fait, le combat, il est déjà tout gagné. Christ a tout remporté à la croix. La tête du serpent ancien a été brisée au nom de Jésus. Et aucun esprit mauvais ne peut demeurer plus puissant que l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous avons l'autorité, nous avons la puissance de marcher sur les scorpions. Et ça, c'est une promesse de Dieu. C'est le mandat qui nous est donné. Alléluia. Et Dieu veut authentifier et que ce bâton, le bâton en dit long sur le berger, c'était son identité, il y avait son nom gravé. C'était son tout, ce bâton disait ce qu'il était. Qu'est-ce qui te définit, mon frère, ma sœur? Si tu le confies en Dieu, alors ce bâton inanimé va prendre vie et prendre autorité et développer une puissance insoupçonnée. Quand je regarde Élie face à Akab, il va lui dire, mais il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Le miracle de la sécheresse, pour dire, bon, ça arrive des sécheresses, oui, mais à la simple prière d'Élie, la pluie va revenir. L'autorité laissée dans le prophète Élie. Quand je regarde Élisée face à Naaman, le roi d'Israël vient de se mettre en jeûne parce qu'il croit qu'il y a une déclaration de guerre par le roi de Syrie. Et Naaman, lui, il voulait juste être guéri. Et Élisée va lui dire, envoie-le, amène-le. Et il verra qu'il y a un prophète en Israël. Et on sait ce qui se passe, et Naaman sera purifié. Il aura une jolie peau de bébé, mieux que Nivea ou Mixa, tous les jours. Une peau magnifique parce que Dieu aura purifié sa vie. Quand je regarde Jésus et les disciples, Jésus n'était pas juste un porte-parole
de la part de Dieu. Il prêchait la bonne nouvelle et accomplissait les miraculeux. Amen. Jean 20, verset 31, c'est la clôture, voilà un peu là. Il dit que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, les témoignages de guérison, de délivrance, tout ce que nous lisons dans la parole, la puissance de vie qui était en Jésus-Christ. Et là, pour que nous puissions croire qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il n'est pas un prophète, mais qu'il est l'envoyé de Dieu, le oint, celui qui a été choisi pour terrasser le péché. Il est l'envoyé, celui qui devait venir, et l'accomplissement des promesses. Il est loin, celui qui est choisi de Dieu pour nous sauver, puisque son nom veut dire sauveur. Jésus-Christ, l'envoyé qui nous sauve à tous. Les miracles qui l'ont accompagné affirment cela. Et si c'était que Jésus, on pourrait dire, bon bah ok, c'est normal qu'on voit moins de miracles aujourd'hui. Mais en fait, Jésus a dit, vous accomplirez des œuvres plus grandes encore. Et on le voit à des Marc 16, 20. Il est dit des disciples, de toi et de moi, à condition d'aller partout prêcher. Et c'est ce qui est dit. Hein. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je te pose une question, mon frère, ma sœur. Est-ce que partout où tu vas, le miraculeux t'accompagne ? Question piège, hein, je sais. Parce que la réponse que je donne pour ma vie, c'est pas tout le temps. C'est trop peu souvent à mes yeux, à mon goût, et surtout dans ce que Dieu veut. Alors j'aimerais qu'on puisse vivre un temps de prière. Si Isabelle, tu peux venir au piano, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Parce que Dieu veut accomplir son miraculeux ce matin dans son église. Alléluia. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, le premier point, c'est ça. Dieu ne veut pas faire des miracles pour faire des miracles. Et faire de l'église du 4 boulevard de Pibrac une attraction touristique pour les columérins et columérines. Non, Dieu veut manifester le surnaturel dans son église pour que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous passent de la mort à la vie. Voilà ce que Dieu veut faire. Dieu veut se révéler à cette humanité qui se perd. Dieu veut se révéler au travers de ta vie, mon frère, ma sœur, d'un Dieu compatissant, d'un Dieu qui aime. Alléluia. Et j'aimerais que, pendant que voilà, Isabelle nous joue un petit morceau, qu'on puisse là, juste penser à cela. Seigneur, je veux vivre des révélations. Parce que s'il y a miraculeux, il y a révélation de la présence et la puissance de Dieu. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux être semblable à ce Moïse, peut-être errant dans le désert. Révèle-toi à moi comme par un buisson ardent. Viens ranimer le feu comme dans le cœur de Cléopas et son ami qui allait sur Emmaüs. Seigneur, viens. Viens maintenant alors que nous te prions, alors que nous sommes là dans ta présence. Jésus, viens souffler par ton esprit dans le cœur de celui qui ne te connaît pas ou qui te connaît si peu ou qui est fâché avec toi. Seigneur, je voudrais te prier maintenant pour que tu te révèles au cœur le plus endurci. Et alors que nous te cherchons, tu vas venir faire un miracle. Peut-être qu'il y a des situations dans ta famille qui sont complètement bloquées. Tu as laissé à la maison un malade. Et Dieu veut confirmer sa parole et qu'au nom de Jésus, les situations se débloquent. Que les malades soient guéris. Pourquoi il le fait ? Parce qu'il veut se révéler à ton cœur. De manière intime, de manière renouvelée. Parce que les dimensions de Dieu, elles ne sont pas les nôtres. Et si Dieu se révèle, c'est pour que nous puissions le connaître plus. Saint-Esprit, je sais que tu veux confirmer ta parole par les miracles et les prodiges ce matin. Alors maintenant, agis dans les cœurs. Seigneur, fais le miracle. Agis par ta nature au milieu de nous. Ce qui est ton quotidien, viens dans le nôtre, s'il te plaît, Seigneur. Nous voulons te connaître personnellement. Nous voulons vivre des révélations nouvelles et rafraîchies. Seigneur, c'est là la révélation de la présence et de la sainteté de Dieu que nous voulons vivre ce matin. Et ton esprit est agissant. Nous savons, Seigneur, que si tu agis au milieu de nous, alors tu vas aussi manifester avec puissance dans nos vies. Oh Seigneur, le miraculeux va prendre part et nous allons nous réhabituer à vivre ce que ta parole nous enseigne, à ce que nous lisons comme témoignage de ce que notre Dieu n'a pas changé.
Saint-Esprit, agis maintenant dans nos cœurs. Alléluia. Dispose nos cœurs à vivre cela. J'aimerais faire un appel. Peut-être tu as quelqu'un, tu te sens trop loin de Dieu. Peut-être tu ne le connais pas. Je vais t'inviter à te lever devant ta chaise. Parce que tu veux aller plus loin avec Jésus. Soit le connaître pour la première fois, soit le connaître plus. Maintenant, prends position. Le miracle de Dieu est en ce lieu. La présence de Dieu est en ce lieu. Et il veut se révéler à ton cœur. Toi en qui ça fait résonner ces paroles, ne tarde pas à te lever. L'appel ne sera pas long, mais ne passe pas à côté de cet appel. Lève-toi pour vivre cette révélation. Dieu va agir maintenant. Il va honorer ta foi maintenant. Alléluia. Toi qui es malade, Dieu veut se révéler à toi comme étant le maître des circonstances, le maître de ton corps et celui qui guérit encore aujourd'hui. Toi qui es lié par des pensées captives, peut-être la dépression, des pensées de mort, lève-toi devant ton Dieu. Il va se révéler à toi, il va se révéler à toi puissamment. Toi, mon frère, ma sœur, qui te sens si stérile dans ton ministère, dans ta vie de disciple, lève-toi, Dieu veut confirmer qui tu es vraiment en Christ. Il va ranimer ce feu dans ton cœur et il va mettre ce mandat sur ta vie. Et que le miraculeux t'accompagne alors que nous te prions, Seigneur, alors que nous nous levons comme un seul homme devant toi. Nous savons que c'est toi la source de la vie et que c'est ton esprit qui agit. Il est une puissance agissant dans l'amour. Et toi qui nous as tant aimés, tu te révèles à nos cœurs maintenant. Ô Saint-Esprit, viens et agis dans les cœurs. Que les captifs soient libérés, que les malades soient guéris, que ceux qui étaient comme aveugles puissent voir qui est leur Dieu. Seigneur, révèle-toi maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, révèle-toi maintenant. C'est devant toi qu'il se lève, non pas devant un homme, non pas dans une ambiance, mais dans la présence du Dieu très haut, du roi des rois, du seigneur des seigneurs, du maître de l'univers, de celui qui a créé, qui appelle les choses qui ne sont pas. Ô Seigneur, ordonne afin qu'elles existent déjà. Nous voulons voir par la foi l'effusion de ton esprit en nous, Seigneur Dieu, afin de vivre le miracle. Ô Dieu, tu veux manifester ton miracle ce matin.